D'avoir rejoint cet après-midi et nous allons en effet ouvrir ensemble la bonne parole de Dieu. Je vous propose de faire une lecture dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire dans la première partie de la Bible qui nous relate l'histoire du peuple d'Israël avant la venue de Jésus. Nous lirons dans le deuxième livre de Samuel. Le deuxième livre de Samuel, puisqu'il y a deux livres de Samuel, le deuxième, au chapitre 23. Excusez-moi. Deuxième livre de Samuel, le chapitre 23, le verset premier. Voici les dernières paroles de David. Paroles de David, fils d'Isaïe. Parole de l'homme haut placé, de loin du Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël. L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé, le rocher d'Israël m'a dit, celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu, est pareil à la lumière du matin quand le soleil brille et que la matinée et sans nuages. Ses rayons, après la pluie, font sortir de terre la verdure. N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu ? Puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point bien réglée et offrant pleine sécurité. Ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs ? Mais les méchants sont tous comme des épines que l'on rejette, et que l'on ne prend pas avec la main, celui qui les touche s'arme d'un fer ou du bois d'une lance, et on le brûle au feu, sur place. Amen. Voilà donc les dernières paroles de David, ou pas paroles publiques, qui ont été consignées par écrit. C'est un homme qui arrive au terme de son existence, et qui là, en quelques mots, fait le bilan. Le bilan de sa vie et le constat qu'il établit, eh bien, c'est que Dieu a été fidèle. Et je crois que c'est le constat que tous les croyants pourront faire lorsqu'ils arriveront, eux aussi, parce que ça nous arrivera un jour, au terme de leur existence. La fidélité de Dieu, la grâce de Dieu, c'est-à-dire sa faveur imméritée, l'amour de Dieu qui s'est manifesté à l'égard de David. Et il nous dira, notamment au verset 5, que Dieu a été la source de sa sécurité et il le sera encore jusqu'au terme, voyez. Il a fait avec moi une alliance éternelle en tout point bien réglée et offrant pleine sécurité. Est-ce que vous avez remarqué qu'aujourd'hui on parle beaucoup de sécurité? Vous avez remarqué ça? Et du contraire aussi, l'insécurité, puisque il y a, paraît-il, dans notre pays, et je crois que c'est vrai, un climat d'insécurité. Hein? Tout à l'heure, nous étions avec notre ami Kevin à Rumilly, et lorsque nous avons garé le véhicule, tout à côté, il y avait un véhicule là, avec toute une panoplie de slogans publicitaires, « agent de sécurité ». Alors je me dis, tiens, ça me conforte dans mon message. Hein? C'est agent de sécurité. Les gouvernements parlent de sécurité, c'est un thème fréquent dans les discours politiques des hommes de notre époque. Et le fait est qu'on a tous besoin de se sentir en sécurité. On a tous besoin de se sentir en sécurité. Alors, le mot qui est employé là, dans le passage que nous avons lu et qui est traduit dans notre Bible par le mot sécurité, contient l'idée de garantie, d'assurance, de permanence. Voilà. Et cet après-midi, moi, j'ai envie de vous poser une question. Où cherchez-vous votre sécurité? Peut-être vous me direz, mais moi, j'ai tous les contrats d'assurance possibles et imaginables pour la maison, du grenier jusqu'à la cave, pour la voiture, pour les accidents de la vie, etc., etc. Où cherchez-vous votre sécurité? La réponse à cette question peut être diverse. Elle, Il y a des gens qui cherchent leur sécurité dans la richesse, dans la réussite sociale, dans le matérialisme, lorsqu'ils sont confortablement installés dans l'existence, lorsque, eh bien, leur salaire est conséquent, lorsque, eh bien, ils peuvent voir l'avenir, pensent-ils, en rose, alors ils se sentent en sécurité. C'est vieux comme le monde, ça. Jésus nous parle, par exemple, d'un homme dont il est écrit que les terres de cet homme qui déjà était riche avaient beaucoup rapporté. Voilà, il avait fait une récolte magnifique cette année-là. Et il a réfléchi, disant, mais que ferais-je? Car je n'ai point assez de place pour contenir ma récolte. Alors il a tracé toutes sortes de plans, il a prévu, organisé une stratégie, etc., des projets. Elle a dit, voilà, je vais démolir mes greniers et j'en bâtirai de plus grands. Parce que l'être humain ainsi fait qu'il veut toujours plus. Hein. Et puis après, il s'est dit, voilà, lorsque mes projets aboutiront, je me dirai, tu as beaucoup de biens en réserve, mange, bois, réjouis-toi, profite de la vie. Vous voyez, cet homme se sentait en sécurité. Mais sa sécurité reposait sur des bases fragiles, parce que quand Dieu l'a entendu raisonner de cette manière dans son ciel, il a pensé, insensé, fou que tu es, tu ne le sais pas, mais cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et donc notre homme, plein de projets en tête, s'est endormi ce soir-là, et il ne s'est jamais réveillé. Voilà, donc sa sécurité était illusoire. Sa sécurité était trompeuse. Et mes amis, si quelque part, de près ou de loin, vous lui ressemblez, eh bien, vous trompez vous-même. Parce que si vous cherchez votre sécurité dans les biens matériels de cette terre, dans les satisfactions de cette terre, dans votre capital, dans vos finances, dans votre réussite sociale, vous faites fausse route. Ça n'est pas là que se trouve la vraie sécurité. On peut penser aussi que la sécurité, on peut la trouver dans la force que l'on a, dans la santé, dans l'énergie. Voilà, je maîtrise la situation, je croque la vie, comme on dit, à pleines dents. Et puis j'ai un caractère bien trempé, j'ai une forte volonté. Et avec tout ça, eh bien je me sens en sécurité. Et si quelqu'un me veut du mal, il n'a qu'à venir. Je suis en mesure de lui faire face, de lui résister. Mais ça aussi, il y en a d'autres dans la Bible qui l'ont dit. Il y a un homme dont l'histoire a retenu le nom, même si on n'a jamais lu la Bible, je crois qu'on a tous plus ou moins entendu parler de Samson. Qu'est-ce qu'il avait, Samson? Il était fort, mais fort, mes amis. L'Écriture nous dit, par exemple, que certaines circonstances, des ennemis, une troupe d'ennemis, un bon millier, sont venus vers lui, et lui, Samson, il n'avait d'autre arme à sa disposition qu'une vieille mâchoire d'âne qui traînait par là, et avec cette arme improvisée, il a étendu raide les 1000 ennemis qui venaient à sa rencontre. Quel homme ! Alors il pouvait se sentir en sécurité. Je n'ai peur de rien, je n'ai peur de personne. Ma force et ma sécurité. Et puis, l'Écriture nous dit que finalement, Samson a connu une triste fin. Hein? Il s'est amouraché d'une femme qui n'était pas digne de confiance, vous voyez, Delila. Et contre espèce sonnante et trébuchante, vous voyez ce que je veux dire, elle a trahi l'amour. Parce que lui, il aimait. Et elle aimait les sous. Hein. Alors, Delila, elle a endormi notre beau Samson sur ses genoux. Et puis, parce que Samson avait un secret. Sa force venait de sa consécration à Dieu. Et le signe de sa consécration, c'était ses longs cheveux. Et Delila, cette perverse, hein, elle a taillé les tresses de Samson. Et puis, alors qu'il était en enlumé, il dit, Samson, les ennemis sont sur toi. Alors il s'est réveillé, sûr de lui, comme toujours, en disant, « Oh, peur de personne, je m'en tirerai comme les autres fois. » Quelle parole terrible. Mais l'Écriture dit, il ne savait pas que Dieu s'était retiré de lui. Et sa force, eh bien, ce jour-là, il ne l'avait plus, vous voyez. « Je m'en tirerai comme les autres fois, mais pas cette fois-là. » Et cette fois-là, contre toute attente, toute l'espérance, le vain espoir qu'il pouvait avoir, ce sont les ennemis qui ont gagné la partie, l'ont attrapé, ils lui ont crevé les yeux et ils ont fait de lui un malheureux esclave. Et il y a des gens comme ça qui trouvent leur sécurité à tort dans leur force, leur énergie. Je me souviens, lorsque j'étais lycéen, j'avais un professeur de gymnastique, d'éducation physique. C'était un athlète, vous voyez, il jouait dans une équipe de rugby. Il était bien taillé, un beau gars, là, d'une trentaine d'années. Et puis, on s'est perdu de vue, le temps a passé. Quelques années plus tard, il s'est avéré que dans notre église à Toulouse, il y avait quelqu'un qui était membre, qui était parent, membre de l'église, qui était parent avec cet homme-là. Alors je lui ai demandé des nouvelles. Il m'a dit, vous ne savez pas, il a été atteint d'un cancer et en 3 mois, l'affaire a été réglée. Voyez, voilà. Ça, c'est la sécurité qu'offre le monde. Hein? Et si vous cherchez votre sécurité dans ce genre de choses, ça ne marchera pas. Ça marchera pas. Il y avait à Toulouse, tiens, ça me vient à l'esprit, un homme qui était marié avec une chrétienne. Sa femme était une petite femme, toute maigrichonne, toute souffreteuse. Et lui, c'était un colosse. Alors il lui disait, mais regarde ce corps. Parlant de lui, hein, s'il vous plaît. Quel orgueil. Toi, là. Mais lui aussi, hein, en quelques instants, sa force a dépéri et il est mort misérablement. Voilà, ça c'est la sécurité qu'offre notre force, notre jeunesse. Hein? Je me souviens, j'avais un camarade, quand j'étais jeune, je venais le voir de temps en temps, je le voyais devant la glace. Là, il prenait des poses, il s'admirait lui-même, vous voyez. Il était jeune, il était beau, il était bien taillé, et il pensait, remarquez, après il a changé d'avis parce qu'il s'est converti. Alléluia, il est même serviteur de Dieu, vous voyez. Il pensait que c'était là, à l'époque, il pensait que c'était là, sa sécurité. Il y a des gens qui pensent trouver leur sécurité dans leur matière grise. Ah, intelligence. L'ancien président Mitterrand disait, je crois aux forces de l'esprit. Ouais, mais l'esprit humain, il est limité. Tiens, à propos d'intelligence, Yann, dans la Bible, un homme qui était fort intelligent, comment il s'appelait? Fort sage. Comment il s'appelait? Mais oui, Salomon. Il a bien commencé, celui-là. Alors qu'il était un tout jeune homme, qu'il s'est retrouvé devant succéder à son père David sur le trône d'Israël, sentant son inexpérience, il a prié Dieu. Il avait bien commencé en disant, Seigneur, je suis un petit jeune homme, je n'ai pas d'expérience. Aide-moi. Et Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Donne-moi la sagesse. Donne-moi l'intelligence pour que je conduise, je dirige ton peuple avec perspicacité, avec sagesse, avec intelligence, avec bon sens, avec clairvoyance. Et Dieu lui a dit, ok, ta prière me plaît, tu vois, ça m'est agréable. Eh bien, je vais te donner une sagesse, une intelligence telle qu'il n'y aura jamais personne d'aussi intelligent que toi. Mes amis, ces neurones ont été tout regaillardis. Et il est devenu un vrai génie. Non, mais c'est vrai, hein. Parce que du bout de la terre, on venait entendre les conférences que Salomon donnait. Et l'Écriture nous dit qu'il a pu discourir sur un tas de choses. Un esprit fort, un esprit intelligent, un homme brillant, un homme intellectuellement supérieur à la moyenne. Un quotient intellectuel hors de toute proportion. Vous voyez, il aurait crevé tous les plafonds à cet égard-là. Et pourtant, il a fini misérablement. Je crois qu'à un moment, il y a eu il y a eu une mauvaise trajectoire qui a été prise. Je crois qu'à un moment, plutôt que de se confier dans le Dieu qui lui avait donné la sagesse, il s'est confié dans la sagesse que Dieu lui avait donnée. Vous me suivez? Je répète, hein? Plutôt que de se confier dans le Dieu qui lui avait donné la sagesse, il s'est confié dans la sagesse que Dieu lui avait donnée. Et ce fut sa perte. Et lui qui avait été si intelligent, il s'est comporté à la fin de sa vie si sottement. Alors qu'il avait vu l'œuvre de Dieu. Dieu lui avait parlé. Dieu lui avait parlé à plusieurs reprises et il est devenu un idolâtre. Lui qui avait été pendant une bonne partie de son règne un fidèle adorateur de Dieu, il s'est mis à adorer des idoles infâmes, des bouts de plâtre, de métal, de bois, de pierre, sculptés par l'art et l'industrie de l'homme. Et il a fini son règne ayant perdu la faveur de Dieu. Comment un homme si intelligent, si sage, peut commettre pareille folie? Alors voilà, c'est bien d'être intelligent, hein. Le Seigneur n'a pas demandé qu'on soit des imbéciles patentés pour pouvoir faire de bons chrétiens. Non. Mais il ne faut pas se confier dans notre intelligence, mais dans la grâce de Dieu, dans la bonté de Dieu, dans la sagesse de Dieu. Voyez? Alors ça ne marche pas tout ça, hein? La richesse, la force, l'intelligence. Il y a des gens qui cherchent leur sécurité dans la beauté. Le look, ça compte aujourd'hui, hein. Vous savez que lorsqu'on vous sélectionne dans une entreprise, eh bien, on prend aussi ce critère en considération. Je me souviens lorsque, avant de servir le Seigneur, je travaillais chez un comptable. Un jour, une jeune femme a postulé. Et la pauvre malheureuse, elle boitait. Elle avait pourtant toutes les compétences, les diplômes qu'il fallait. Mais elle n'avait pas le look, excusez-moi. Hein. Et pour ça, elle a été recalée. Ça ne faisait pas bien dans la boîte, vous voyez, quelqu'un qui boitait. Il faut être beau, il faut en imposer, il faut avoir de la prestance. Alors le succès, plaire, l'importance de plaire, le culte du corps. Remarquez combien les publicités aujourd'hui, le marketing appuie sur cet élément-là. Ouais. Ah, si vous êtes beau, vous connaîtrez le succès. Il y a des gens qui cherchent leur sécurité dans cette affaire-là. Ma mère me disait, la beauté, ça se mange pas en salade, mon garçon. Elle avait bien raison. Dans la Bible, il y a un garçon, il était beau. Comme c'est pas possible de l'être. Il s'appelait Absalom. C'est écrit, hein? Depuis la plante des pieds jusqu'à la racine des cheveux, même au-delà de la racine, il n'y avait pas en lui de défaut corporel. Voilà. Hein? Il était magnifique. Il avait un look séduisant. Un look, mais ravageur. Et il a séduit le peuple. Voyez, les gens commencent à se dire, ah, quel roi magnifique il serait. David, il commence à prendre des rides et des cheveux blancs. Hein? Absalom. Et la Bible dit que le cœur du peuple s'est tourné vers Absalom. Il était beau, mais il était bête. C'est vrai. Et il a conçu dans sa tête, sa petite cervelle, ce projet insensé, de détrôner son père et de prendre sa place. Et la parole de Dieu nous dit qu'il y a eu un combat entre les partisans de David, qui restaient fidèles, au vieux roi, mais au roi qui tenait la route, quoi. Et puis les autres qui étaient subjugués par la beauté d'Absalom. Et au cours de ce combat, il est arrivé quelque chose. Et Absalom montait sur une bête de somme et passait sous un arbre. Et sa chevelure, c'était le splendeur de sa beauté, vous voyez, c'était la splendeur de sa beauté. L'Écriture dit qu'il avait une chevelure magnifique. Et bien justement, ce qui faisait sa beauté a fait sa perte. Vous avez remarqué ça? L'Écriture dit qu'en passant sous cet arbre, avec sa monture, ses cheveux se sont entortillés dans les branches de l'arbre. La bête a continué son chemin et lui s'est retrouvé pendu par ses beaux cheveux. Quand les soldats de David, qui n'étaient pas des tendres, ils sont arrivés, ils ont enfoncé 10 javelots dans son cœur. Et Absalom, le beau gars, il est mort. On l'a jeté dans une fosse, comme un animal, comme une bête. On a ramassé sur lui un tas de cailloux et l'affaire a été réglée. Ce fou qu'il était pensait que sa beauté, son pouvoir de séduction pouvait lui procurer la sécurité. Alors vous voyez, que ce soit la richesse, que ce soit la force, que ce soit l'intelligence, que ce soit la beauté ou tout ce que vous voulez d'autre, tout cela, c'est fragile, mes amis. C'est vulnérable. C'est illusoire et tôt ou tard, ça s'avère décevant. David, lui, il a raison. Écoutez ce qu'il dit, je vous le relis. Il a fait, Dieu, il a fait avec moi une alliance éternelle en tout point bien réglée et offrant pleine sécurité. Il avait compris, David, et puissions-nous le comprendre, que la vraie sécurité, elle vient de Dieu. Et c'est lui qui peut assurer notre sécurité dans tous les domaines de notre existence. Dieu a fait avec moi une alliance éternelle en tout point bien réglée, offrant pleine sécurité. Qu'est-ce que c'est une alliance ? Une alliance, c'est un contrat entre deux parties. Une alliance, c'est un engagement réciproque. Eh bien là, il s'agit d'une alliance. Dieu, n'est-ce pas, s'engageait à être le Dieu de David, et David, de son côté, devait s'engager à être un fidèle observateur de la parole, des commandements et des ordres du Seigneur. J'ai une bonne nouvelle pour vous cet après-midi. Dieu veut passer une alliance avec vous. Dieu veut passer un contrat. Vous ne faites pas de soucis, le prix de l'assurance, du contrat, c'est lui qui l'a déjà payé. Une alliance avec vous, au travers de la personne de Jésus. Vous vous rappelez la Sainte Cène, ce repas commémoratif que Jésus a institué le dernier soir qu'il a passé avec ses disciples, là, au cours de la fête pascale israélite, parce que Jésus était juif et ses apôtres aussi, et c'était la Pâque. Eh bien, il a pris du pain, voilà, il l'a réduit en miettes, en morceaux, il a dit, voilà, ceci représente mon corps qui va être livré pour vous, qui va être livré à la mort, à la souffrance, pour vous. Et puis après le souper, il a pris une coupe, il l'a remplie de vin, il a dit, faites-la circuler entre vous et buvez-en tous. Ceci représente mon sang, le sang de l'Alliance qui a été versé pour vous. Je ne suis pas sûr que sur le moment, les disciples aient bien compris ce qu'il avait voulu dire. Mais ils ont compris plus tard ce que ça voulait dire, lorsqu'ils ont vu ce gibet de la croix se dresser et le corps de Christ y être cloué, n'est-ce pas ? Là, l'alliance était scellée dans le sang. L'alliance était scellée dans le sang. C'est comme si Dieu lui-même signait et disait, voilà, tu peux me faire confiance. Tu peux entrer dans l'alliance que je te propose. Car je t'ai prouvé, je t'ai démontré la réalité de mon amour. C'est pas du bluff. Je me moque pas de toi. Je suis pas en train de te rouler dans la farine. Je suis pas en train d'essayer de t'exploiter, de tirer parti de ta personne. Mais je t'ai aimé au point de livrer mon propre fils sur une croix. Il a versé son sang pour que par son sang, tes péchés, tes erreurs, tes fautes, tes bêtises, tes maladresses soient effacées et soient pardonnées. Et aujourd'hui, cette alliance, elle est proposée. Un jour, gloire à Dieu, je suis entré dans cette alliance. J'ai dit, oui Seigneur, je n'étais qu'un tout jeune homme, mais j'ai compris que j'avais besoin pour qu'il assure ma sécurité déjà sur la terre et encore plus et bien plus dans l'éternité. J'avais besoin de lui et le Seigneur a été fidèle. Y aura-t-il cet après-midi quelqu'un qui dira, oui Seigneur, je veux entrer dans l'alliance. Je veux entrer dans le contrat. J'accepte de croire du fond du cœur que pour moi, pour les autres aussi, bien sûr, mais pour moi en particulier, pour moi qui suis un pécheur, tu as donné ta vie,
Tu as livré ton corps à la mort de la croix. Tu as versé ton sang pour que par ce sacrifice, mes péchés soient effacés. Tu, pour que je sois pardonné, que je reçoive la vie éternelle et que ma vie change. Alors Seigneur, en retour, ma pauvre vie, je te la donne et j'entre dans l'alliance. Et c'est là, je le crois, je le sais, que je trouverai ma sécurité. Alléluia. Ma sécurité. Alors vous allez me dire, mais est-ce que ça veut dire que si on devient chrétien, il n'y a plus de problèmes, il n'y a plus de soucis, il n'y a plus de difficultés, que la vie est un long fleuve tranquille, un vrai tapis de rose? Non! Non, 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 nous sommes chrétiens, nous avons aussi nos combats, nos luttes, nos épreuves, nos tentations, et parfois, reconnaissons-le, même nous vivons des drames. Vous me direz, mais où est la différence alors? La différence, elle est que même dans les pires moments, Jésus est là. Jésus est là. Et vous savez ça? Ça change tout quand Jésus est là. Il y a des moments dans la vie où personne ne pourra vous accompagner, même ceux qui vous aiment le plus. Il y a des moments où vous devrez affronter certaines difficultés, certains combats de l'existence, certaines situations stressantes, difficiles, tout seul. Mais quand Jésus est avec nous, on n'est jamais seul. Et je vous le garantis, parce que je l'ai vécu. Ce n'est pas un truc que j'ai trouvé dans un bouquin. C'est quelque chose que nous avons, et je ne suis pas le seul, que nous avons vérifié, touché du doigt, expérimenté dans les pires moments. Il est là. Comme c'est bon, mais comme c'est bon. Alors que les mauvaises nouvelles dégringolent, que tout est là pour nous effrayer, de sentir là la présence de Dieu dans notre cœur, qui nous parle, car il nous parle par son esprit, à sa manière, on n'entend pas de voix. Mais là, dans notre cœur, c'est comme si Jésus nous disait en direct, « N'aie pas peur, ça ira bien, je suis là, ne te fais pas de soucis, tu vas te tirer d'affaire, je vais te tirer d'affaire. » Voilà, mes amis, ce que c'est qu'être chrétien. C'est là, c'est là, c'est connaître la vraie sécurité. Cette sécurité commence ici-bas, mais elle se prolongera jusque dans l'éternité. Le jour où le Seigneur nous accueillera. Alléluia! Vienne ce jour où toutes les souffrances, les peines, les douleurs, les combats, les tentations, les épreuves de cette terre seront terminées et nous entrerons, je dirais, dans la sécurité éternelle, ou dans l'éternelle sécurité, puisque nous serons avec lui dans le ciel. Voulez-vous entrer dans cette alliance? Vous avez votre décision à prendre. Il vous faut dire oui, Seigneur. Pécheur je suis, pécheur je me reconnais, pécheur je te le confesse. Je crois que tu as donné ta vie, tu as versé ton sang pour le pécheur que je suis. Je t'en demande pardon. Je t'accepte, je te reçois comme mon sauveur. J'entre dans l'alliance et je reçois de ta part la sécurité dont j'ai besoin pour le présent, pour l'avenir et pour l'éternité. Amen. Prions.